France Inter. Le masque et la plume. L'épisode du jour est consacré à l'actualité du cinéma. Et pour en débattre, voici Muriel Joudet du journal Le Monde, Xavier Le Herpeur de la revue La 7ème Obsession et de France Inter, Florence Colombani du Point et Pierre Murat tel qu'en lui-même.
Voilà.
Au programme, les nouveaux films de Steven Soderbergh, Bong Joon-ho, Giacoppola, Paolo Sorrentino, Barbara Schultz et Guan Hu, un panorama de poche du cinéma mondial, donc avec un Chinois, un Italien, une Française, un Sud-Coréen et deux Américains. Il sera question d'une chanson de Pink Floyd dans le désert de Gobi, de Robert Pattinson cloné 18 fois, ou encore d'une comédie policière avec Fabrice Luchini, tous en selle et en salle, avec ce nouvel épisode du Masque. Nous avons été surprises toutes les trois, Ilinka Negulesco, Nina Malray et moi-même, surprises par les centaines de mails reçus cette semaine, dont beaucoup prolongent les débats, consacré à The Brutalist, film somme de 3h30 réalisé par Brady Corbett avec Adrien Brody. Soutien à Xavier, s'exclame Aude Randanne de Clermont-Ferrand. Quel soulagement en l'écoutant donner son avis sur ce film très maniéré, à la mise en scène prétentieuse. Merci à Xavier Le Herpeur d'avoir contrebalancé les avis dithyrambiques sur ce film fouillis, confus, pompeux et pompier, insiste Adrien Léong. Il y a d'autres mails comme celui-ci. Trois des quatre critiques du Masque étaient effectivement très favorables à The Brutalist. Et François Lavergne raconte « Il faisait beau à Paris ce dimanche, mais plutôt que de profiter du soleil, suivant vos conseils, je me suis rendu au cinéma de quartier pour The Brutalist. Résultat, mon taux de vitamine D ne vous remercie pas. Amis auditeurs, je vous l'assure, si vous hésitez encore, plutôt que de perdre 3h30 de votre vie, privilégiez votre vitamine D. » Guy Angela de Mélan en Isère parle au contraire d'une œuvre époustouflante et passionnante. Quel film, mon Dieu, mais quel film, s'exclame Cyrus. On ne voit malheureusement plus de telles œuvres revisiter l'histoire américaine comme ont pu le faire La Porte du Paradis ou Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Une merveille, tout simplement. Vous prenez aussi la défense de Bridget Jones 4 et n'avez pas apprécié les commentaires sur le physique de Renée Zellweger. Camille ajoute: l'émotion, c'est ça aussi, retrouver une grande sœur de fiction qui nous accompagne pendant des années. J'ai vieilli et je trouve charmant que cette femme ne soit pas jetée aux oubliettes une fois 40 ans passés, tout en gardant sa candeur. Longue vie à Bridget Jones, il me tarde de la voir vieille dame à 70 ans. Vous vous enthousiasmez aussi largement pour La Mer au Loin de Saïd Hamish Ben Larbi, qui a fait l'unanimité à la tribune. Madeleine de Houille, dans les Yvelines, précise que le film passe dans un petit nombre de salles, mais qu'il y a urgence à le défendre. Concernant le prix du Masque maintenant, certains regrettent que j'ai annoncé les lauréats, à savoir Jacques Audiard et Mohamed Rassoulof, dans la matinale de France Inter. J'ai donc brisé le suspense de l'annonce et j'ai pris ce parti pour que Mohamed Rassoulof et Jacques Audiard soient avec nous sur scène dès le début de l'émission et qu'on puisse profiter et de leurs échanges et de leurs propos sur la longueur. Enfin, vous nous écrivez par mail, lettre ou via Instagram et je vous signale que France Inter a désormais un compte Letterboxd, le réseau social des cinéphiles où figureront les tribunes critiques du Masque, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour continuer le débat sur l'actualité du cinéma. On commence avec le nouveau long-métrage du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho. 6 ans après le triomphe public et beaucoup de prix, dont la Palme d'Or pour Parasite, voici donc Mickey 17, ou Mickey 17, mais je vais dire Mickey 17. Le scénario est adapté d'un roman de science-fiction de l'auteur américain Edward Ashton. Nous sommes en 2054 et Mickey, qui est, disons, un crétin gentil et qui porte le récit en voix off, Mickey donc s'engage dans l'expédition colonisatrice de Niflheim, une planète lointaine, pour échapper aux menaces d'un mafieux. L'expédition en question est menée par un entrepreneur tyran totalement taré, mais finalement assez proche de la réalité. Et dans la mission colonisatrice de la planète Niflheim, le boulot de Mickey et de mourir. Parce que Mickey appartient à la caste des remplaçables, c'est un cobaye. Pour des expériences diverses, son corps est un produit de consommation, et à chaque fois qu'il meurt, il est cloné grâce à une imprimante 3D, d'où cette réplique « Meurs bien et à demain ». Robert Pattinson, qui incarne le personnage, en interprète donc plusieurs versions. À l'occasion d'une de ses missions sur Niflheim, il tombe dans une crevasse, et des créatures autochtones assez flippantes lui sauvent la vie. Donc après le polar ou le film de monstres, Bong Joon-ho continue de fusionner les genres. C'est son troisième film de science-fiction en anglais. C'est aussi un film d'amour, une farce gore et une satire politique, avec Mark Ruffalo dans le rôle du tyran et Toni Collette dans celui de son épouse, obsédée par la cuisine et les recettes de sauce. Ce nouveau long-métrage de Bong Joon-ho devait sortir il y a un an, et est-ce que ça valait le coup d'attendre, Xavier ?
Ça vaut toujours le coup d'attendre un film de Bong Joon-ho, qui est vraiment un cinéaste qui, depuis qu'on l'a découvert avec Memories of Murder, ne cesse de m'enthousiasmer par sa diversité, sa capacité de renouvellement. C'est pas mon film de Bong Joon-ho préféré, on va commencer par là, et selon l'adage qui veut que rien n'existe avant le mai, je vais commencer par ce qui me gêne. Il y a quand même un problème de scénario qui est extrêmement bancal, avec des personnages qui disparaissent, qu'on nous rapatrie en catastrophe dans les 10 dernières minutes, histoire de parachever leur destin. Son copain coréen, là, qu'on voit au début, qui refuse de le sauver dans la crevasse, c'est vraiment l'ouverture du film. Il fait quelques apparitions. On a un personnage de jeune femme qui est à la fois bisexuelle, donc hétéro quand ça nous arrange, homo quand ça nous arrange. Enfin, je trouve qu'elle est un peu versatile dans le scénario. Le personnage de Tony Nicolette est, comme la sauce, figée. C'est-à-dire qu'elle n'évolue jamais, elle perd son temps à faire des sauces. Alors à un moment, on lui donne une petite fonction, que je ne révèle pas, évidemment, je ne suis pas méchant. Aujourd'hui, je suis gentil, vous allez voir.
Là, pas vraiment. Hein.
Voilà. Non, mais il y a des vrais problèmes, il y a des trous dans le scénario. On sait que la Warner a demandé à Bong Joon-ho au scénario de revoir un tout petit peu la copie. Et malheureusement, ça se voit et ça s'entend. Mais, le portail, je le franchis, il y a un sens de la mise en scène auquel on ne peut que souscrire, c'est jubilatoire, j'aime pas le mot, mais je l'emploie parce qu'il y a des trouvailles incessantes dans la mise en scène, dans le décor, dans les jeux de perspective chez Bong Joon-ho. Il le fait très très bien. Ça n'est pas du niveau de Parasite, mais il y a quand même un sens de l'espace qui est indéniable, qui est vraiment savoureux dans tous les sens. Je sais qu'on a 6 films aujourd'hui qu'il faut que je fasse court. Robert Pattinson,
j'ai rien dit,
qui n'est pas un acteur, moi, qui me bouleverse, je le trouve absolument formidable dans un rôle qui est effectivement très binaire, on va dire. Il y a le bêta et puis il y a le méchant. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs pourquoi, quand il est photocopié, il change de caractère. Ça, ce n'est pas très bien expliqué dans le film, mais peut-être que je n'ai pas été assez attentif. Mais il y a un bonheur du mécréantisme politique et social qui me fait extrêmement plaisir. Le seul petit anachronisme, tu l'as dit au début, l'entrepreneur, on nous l'annonce en entrée de jeu, est quelqu'un qui a raté par 2 fois l'élection américaine, et c'est pour ça qu'il a décidé de quitter la Terre. Et malheureusement, eh bien, la réalité est bien pire que la fiction, puisque le personnage dont il s'inspire a été élu.
Est-ce que ça t'a plu, toi, Pierre ?
Ah, mais je suis tout l'inverse de Xavier, c'est-à-dire que je m'aperçois finalement que... Bah oui, non, mais ça fait souvent, mais finalement, je me rends compte que de ce réalisateur, je n'aime vraiment profondément qu'un seul film qu'il a fait donc il y a 20 ans maintenant, qui s'appelle Memories of Murder, qui est absolument sublime. Tout le reste, dans tous les autres films, il y a des moments très forts, et puis il y a des moments surgonflés, il y a des bébêtes qui m'emmerdent, et alors à la fin, on a droit à un quart d'heure de bébête où il se prend pour Eisenstein sur la glace, on ne sait pas si ça va... Tout. Et alors, la suffisance, même dans sa Palme d'Or, qui a été quand même sur-célébrée, sur-vendue, qui est un film un peu moyen, mais là, de toute façon, là, les défauts ont pris absolument le pas sur les qualités très réelles qu'il peut y avoir, mais qui sont toujours éparses. Et là, il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage. Et quant à Robert Pattinson, que moi j'aime beaucoup, parce qu'il est très agréable à regarder et plutôt bon comédien, le pauvre chat, mais c'est effrayant, il n'a rien à faire que dire « Oh, mon Dieu, je suis double !» Enfin non, c'est un échec absolu.
Florence ?
Alors je trouve que c'est un film double, oui, parce que c'est un film dans lequel il y a une satire politique qui est quand même... en effet un peu lourdingue et en retard sur la réalité, donc qui n'est jamais tout à fait satisfaisante, parce que tout ce qu'on se dit c'est le vrai Trump est bien pire que ce que fait Mark Ruffalo, ou le personnage de Toni Collette est beaucoup plus un peu plus en tout cas de Lady Macbeth en elle que Melania, donc tout ça tombe vraiment
gentil,
à plat.
T'es gentil Lady Macbeth, t'es gentil.
Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans le film et qui est une sorte de dialogue que mène le cinéaste avec Chaplin. C'est-à-dire qu'il y a du slapstick, il y a une réflexion sur le capitalisme et comment on est en fait des sortes de vis ou d'écrous dans une machine. Et c'est ce qu'est ce personnage de Mickey qui est en effet de la chair à canon, vraiment au sens propre. Et là, il y a un discours politique qui prolonge les temps modernes, enfin qui est en dialogue avec ça. Et aussi sur le pur plan du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a ces moments où Robert Pattinson, pour être recréé, il sort comme d'une imprimante. Et les techniciens qui font ça ont tellement l'habitude qu'ils ne font plus attention et donc son corps tombe complètement inerte par terre.
Comme une feuille. Comme voilà. Une feuille à l'issue d'une sortie d'imprimante.
C'est un gag qui est réutilisé une ou deux fois et c'est un gag terrible, c'est un gag qui a du sens. Enfin, je trouve que là, dans toute cette partie-là du film, cette partie très organique, il y a quelque chose d'intéressant et également dans ces bébêtes, ces fameuses bébêtes qui sont de la matière, de la chair, on les trouve répugnantes, on les trouve mignonnes, on les trouve intéressantes. Finalement, le discours que tient le Bong Joon-ho sur le bien-être animal, pour moi, ça, c'est un discours qui fait sa spécificité, c'est quand même un fil qui tire dans tous ces films. Il y avait ce film sur le petit cochon, là, Okja. Enfin, c'est quelque chose
c'était
qui l'intéresse.
C'était mauvais, ça, alors, en plus.
Moi, je trouve qu'il y a plus dans ce film qu'on ne croit. C'est-à-dire que sous l'apparence de quelque chose d'un peu gonflé, trop orange, trop avec des clins d'œil, il y a un discours intéressant.
Muriel, discours intéressant pour toi?
Non, enfin, moi, j'ai toujours l'impression que Bong Joon-ho est embarrassé dès lors qu'il fait un film à Hollywood. Et j'ai eu l'impression de voir, un peu comme Okja et Snowpiercer, un peu tout son cinéma, mais expliqué alors, pour les nuls ou pour des débiles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout ce qu'on retrouve habituellement dans son cinéma. C'est-à-dire d'un côté la lutte des classes, l'exploitation des hommes par les hommes et l'exploitation animale, tout est là déjà dans The Host et là j'ai l'impression qu'on a une sorte de medley et qu'il ne sait pas trop quoi raconter, il ne sait pas trop quoi faire et il se sent un peu obligé de transformer son univers en univers Marvel. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'une sorte de film de super-héros où toute sa violence, tout son côté incisif, toute la dimension politique de son cinéma qui est très brutale dans ses premiers films et dans ses films coréens surtout, et bah là d'un seul coup il faut que ça soit un univers mignon, il faut que tout soit un peu gadget, et je trouve que plus ça avance, moins je l'aime. Et là, c'est vrai que j'ai eu le sentiment de faire mes adieux à Bong Joon-ho, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont j'attendais peut-être qu'il soit le Verhoeven d'aujourd'hui, et au lieu de pirater le système hollywoodien, je trouve qu'il s'est complètement fait avaler, et le film le métaphorise, c'est-à-dire que la grosse bébête qui veut manger Mickey, c'est le système hollywoodien qui avale un auteur qui n'arrive plus à être un auteur quand il sort de son pays.
Est-ce qu'une personne du public souhaite intervenir pour Mickey 17 de Bong Joon-ho? Oui. Bonjour.
Bonjour. Alors, pour Mickey 17, moi j'ai beaucoup aimé. Désolé. Il y a ce côté un peu façade où ça nous vend un peu, oui, le côté un peu philosophique derrière la reproduction humaine, l'immortalité et tout. Mais c'est une façade justement pour critiquer derrière le fascisme et la fascisation. Et il y a des grandes scènes, vraiment, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est ça le truc. Et ça apparaît finalement un peu en sous-texte. Il y a vraiment des scènes où c'est marquant. Et j'ajoute aussi, il y a aussi un côté critique du capitalisme avec la reproduction d'un travailleur, finalement, qu'on exploite jusqu'à la mort et qui reproduit sa mort. Et à titre personnel, je trouve ça très angoissant de ne pas pouvoir mourir.
Voilà. C'est l'un des sujets du film, ouais.
Voilà. Donc c'est, vraiment, pour moi, c'est un bon film qui fait du bien, un film antifasciste où on rigole. Et pour finir, sur le bien-être animal, je trouve qu'il y a une partie que vous avez complètement manquée. C'est aussi une critique du colonialisme. Après, peut-être que ça fait partie de nos dénis collectifs et que du coup, c'est pour ça que vous ne l'avez pas aimé.
Sur la gauche, il y a une dame qui vous souhaite prendre la parole.
Méfions-nous de la nouvelle génération.
Je suis pas sûre. Bonjour.
C'est un film très réussi qui m'a fait également beaucoup rire. Et je trouve vraiment que l'humour noir est l'une des grandes forces du film, comme souvent chez Bong Joon-ho. Hein. Et je profite de mon intervention pour faire une dédicace à ma maman qui écoute Le Masque tous les dimanches dans
son
bain.
C'est un
film
de Bong Joon-ho, ça aussi, Mother. Ouais.
Et bonjour madame.
Eh bien moi, j'ai trouvé que c'était une excellente comédie satirique, dystopique, l'un des meilleurs films de Bong Joon-ho. Parce qu'il dénonce le capitalisme, il dénonce tout ce qu'on a dit, les inégalités sociales, l'exploitation de l'homme par l'homme, enfin voilà.
Voilà, on va dire que Le Masque est une émission de gauche.
Et en même temps, j'attribuerais à Robert Pattinson non seulement un Oscar de Best Actor, mais également un Oscar pour Best Supporting Actor, parce que dans ce personnage qui se donne la réplique, je le trouve absolument fabuleux, très drôle, et c'est une excellente comédie burlesque.
Le Masque, une émission à super pouvoir qui décerne les Oscars depuis le théâtre de l'Alliance française. C'était donc Mickey 17 de Bong Joon-ho, et on passe à The Last Show Girl, soit l'arrivée dans le cinéma d'auteur de la Canadienne Pamela Anderson, notamment connue pour la série Alerte à Malibu dans les années 90. The Last Show Girl est le troisième long métrage de Gia Coppola, petite fille de Francis Ford. Pamela Anderson est Shelley, danseuse dans une revue à l'ancienne avec paillettes, corps dénudés et plumes. Une revue qui se joue à Las Vegas depuis des décennies. Mais au début du film, Shelley apprend que le show s'arrête. C'est donc la fin d'un monde auquel elle a pourtant consacré toute sa vie, au point d'avoir délaissé sa fille, avec qui elle tente de renouer. Shelley et ses copines se serrent les coudes, Jamie Lee Curtis en tête. C'est souvent filmé caméra à l'épaule, en gros plan, dans les rues de Las Vegas et surtout dans les coulisses du spectacle. S'agit-il essentiellement d'un coup, avec ce casting qui fait beaucoup parler de lui, ou de bien plus, Pierre ?
Ah ben c'est pas un coup et c'est bien moins. Non, mais moi je veux bien pleurer pour tout le monde. Hein. Je veux bien pleurer sur les stripteaseurs trentenaires qui, comme dans Magic Mike, qui se demandaient s'ils allaient plaire encore aux foules à 31 ans passés. Je veux bien pleurer sur les danseuses qui ont 50 ans et plus et qui se demandent ce qu'elles vont devenir. Je veux bien pleurer sur tous les hommes en détresse et sur toutes les femmes qui souffrent.
Visiblement,
mais
tu pleures sur de la
stupeur. Un tout petit peu à pleurer tout de même. Et là, personne ne m'aide. Il y a encore une fois un scénario complètement brinque-ballon. Alors, bon, pourquoi pas? Bon, la photo est d'une laideur. Oui, je sais, c'est volontaire, c'est pour montrer l'univers sombre, mais on pourrait quand même faire un effort de filmer ça différemment. Et puis surtout, il n'y a pas de mise en scène. Tu parlais de caméra à l'épaule qui va dans tous les sens. Mais pourquoi? Et je crois que la réalisatrice n'a aucun talent. Et c'est très visible dans un plan. Au bout de la fin, il y a l'actrice, donc Pamela Anderson, qui répète un numéro. Et on devrait être bouleversé, ému, avant qu'un crédin lui dise « Vous êtes trop vieille, vous êtes trop nulle. » Bon. Or, il n'y a pas un metteur. Elle ne sait pas, la réalisatrice, comment la filmer. Il n'y a pas de mise en scène sur ce moment de comédie musicale. Donc moi, je veux bien pleurer, mais il faut m'aider un peu quand même.
Est-ce que tu as été bouleversée, toi, Florence?
Oui, moi, je vais pleurer de ne pas être d'accord avec Pierre, parce que ce film qui m'a, sur le coup, pendant que je le voyais, me déplaisait plutôt, mais énormément resté en tête. Et je pense que ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose qui s'y passait. Ce qui n'est pas très satisfaisant quand on regarde le film, c'est qu'il y a une sorte d'alternance entre des scènes dialoguées et des petites scènes impressionnistes de Pamela Anderson sur fond de lumière de Las Vegas, les coulisses des casinos qui sont très déprimantes, le personnage de Jamie Lee Curtis qui fait un peu pitié, qui est accro au jeu, qui dort dans sa voiture, des tas de petites notations comme ça, et cette alternance systématique de dialogue et petites impressions, c'est lassant, bon, voilà. Après, il m'est resté quelque chose, il m'est resté le portrait d'une femme qui est une sorte de femme fantôme un peu d'un autre cinéma, d'une autre époque. Elle parle comme Marilyn Monroe, elle fait exprès, hein, c'est une sorte d'imitation.
Avec une voix très perchée, une voix de
voilà,
petite fille.
Voilà, une voix de petite fille, elle fait une imitation de la Marilyn Monroe de certains Lame Show. Elle a un optimisme à tout craint qui est totalement en décalage avec tout ce qu'elle vit, le fait qu'elle est dans cette revue totalement pathétique, devant des salles vides, le fait qu'elle n'a pas de relation intéressante avec personne dans sa vie. Et ce décalage entre sa vision des choses et le monde dans lequel elle est, pour moi, il y a une émotion qui m'est restée. Et je pense qu'on parlait du discours anticapitaliste. C'est aussi une forme de discours sur ce que c'est que ces lieux de rêve de strass et de paillettes qui broient des gens sans même que ces gens s'en rendent vraiment compte. Donc le portrait qui est fait de Pamela Anderson, il existe quand même dans ce film.
Est-ce que tu en as gardé quelque chose, toi, Muriel ?
Pas vraiment, mais alors que j'aime beaucoup Alerte à Malibu. Enfin, j'ai passé mon enfance devant la télé et donc devant Alerte à Malibu.
Rien à voir. Est-ce que t'aimes beaucoup? Est-ce que t'aimes Alerte à Malibu, toi, Pierre?
Ouais, pour ou contre Alerte? David Hasselhoff.
Ouais.
Ok. Bon, voilà. Donc voilà, je savais qui était Pamela Anderson.
Ah, moi aussi, oui.
Et le film fait partie un peu d'une sorte de genre qui se pose la question où vont les corps dont Hollywood ne veut pas. Voilà, c'est à la fois Sunset Boulevard, c'est Qu'est-il arrivé à Baby Jane.
C'est The Substance.
Voilà, exactement, The Substance. Et donc, moi, c'est une question qui me passionne. Le problème, c'est que je rejoins Pierre sur le côté, enfin, sur l'absence de talent, en tout cas de regard de Gia Coppola. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'elle n'avait pas d'avis sur ce qu'elle filmait, elle n'avait pas d'avis sur Pamela Anderson. Et du coup, elle s'en remet à une sorte de parcours fléché de film indépendant qui va filmer l'envers du décor, qui va montrer que Las Vegas, c'est glauque. Alors que je pense qu'on a compris que Las Vegas était glauque. Il y a beaucoup de films qui en parlent. Je pense que c'est aussi un film qui l'orne du côté de Cazavette, de Meurtre d'un bookmaker chinois. Comme elle n'a pas de regard, elle a des références et elle a des archétypes et elle a des scènes obligatoires qui sont très très embarrassantes. Et le problème, je trouve majeur, c'est qu'en fait, Pamela Anderson ne joue pas bien. Réhabiliter quelqu'un qui en fait mérite peut-être pas d'être réhabilité, c'est un problème.
Qu'est-ce que t'as pensé de cette réhabilitation, Xavier ?
Moi, je suis dans l'équipe de Florence. C'est un film, effectivement, quand on le voit, qui nous agace par les conventions, par les archétypes, par effectivement les rendez-vous obligatoires. Et puis, de temps en temps, elle me chope, elle au pluriel d'ailleurs, la réalisatrice et sa comédienne, qui n'est pas une bonne comédienne, mais on a quand même le droit aussi d'avoir envie de tourner un personnage, une mémoire, c'est quand même pas rien, Pamela Anderson, moi si, même si j'y ai complètement échappé, je n'ai pas eu de poster de Pamela Anderson au-dessus de mon lit.
Ça m'étonne.
Tout s'explique. Mais il y a des moments où, bizarrement, elle crée des scènes en dehors de ces conventions qui m'intéressent. Il y a un moment où elle essaie de laisser un message à sa fille sur un répondeur, elle se plante sur l'âge et en même temps, elle a oublié la côte de porc qui est en train de cuire, ça déclenche un incendie et toute la nervosité du personnage, elle est dans cette séquence où tout lui échappe. Et je trouve que ce désarroi, ce désespoir, elle le filme remarquablement, vraiment. Je trouve qu'il y a un regard, et il y a un regard quand elle regarde le film, Jamie Lee Curtis danser toute seule sur un podium dans le casino. Ah si, je trouve que la scène ne sert à rien et qu'en même temps, justement, elle réhabilite énormément le personnage. Et moi, ça m'émeut. Pardon, hein.
D'accord.
Si tu préfères les filles en maillot de bain avec des gros seins qui courent sur la plage, chacun son truc.
Je préfère le rêve plutôt que l'envers du décor.
Une personne du public souhaite intervenir sur The Last Showgirl de Gia Coppola. Vraisemblablement non. Je clôt donc cette tribune sur The Last Showgirl de Gia Coppola et bienvenue à Naples avec Partenope, le nouveau film de l'Italien Paolo Sorrentino. C'est à la fois le portrait d'une femme et d'une ville, puisque Partenope est le prénom du personnage principal et aussi le nom antique de la ville de Naples. Sorrentino a donc choisi de faire incarner Naples par la sublime Céleste Dalla Porta, sublime puisque le poids de la beauté est l'un des thèmes de ce film, assez long, en tout cas, de 2h15, mais je m'égare. Partenope séduit tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux. Elle fait naître le désir plus qu'elle ne semble l'éprouver. Elle croise un écrivain américain maudit et alcoolique, joué par Gary Oldman. Il y a aussi un prêtre libidineux, une diva perruquée. Partenope est une femme brillante qui s'engage dans une thèse d'anthropologie avec un vieux professeur misanthrope. Bref, c'est une longue fresque où on suit la vie d'une femme et le devenir d'une ville pendant 50 ans, l'une et l'autre ayant un secret impénétrable. As-tu été sensible à ce secret, Muriel ?
Non. D'accord. Mais en vous écoutant, je me disais, le problème du film, c'est ça, c'est de doter d'absolument toutes les qualités un personnage, et en fait, ça fait que le personnage est complètement vide, ça c'est le problème du film. Le male gaze que beaucoup ont critiqué me dérange presque pas à l'intérieur de tout ce qui me dérange dans le film, c'est-à-dire qu'il est sidéré par la beauté de son actrice, il la filme vraiment comme une déesse descendue de son Olympe, pourquoi pas, mais disons que le personnage est creux. Moi, j'aimerais juste pousser aussi quand même une petite gueulante sur quand un film commence sur un logo de Marc Deluc, donc Saint-Laurent, qui est coproducteur du film, je regarde les fringues. Ça, c'est un peu mon problème. Il y a toute une tradition de films comme ça qui sont produits par Saint-Laurent.
C'est pas mal, les fringues.
Justement, j'ai regardé les fringues pendant 2h15. Donc, c'est ça le problème du film.
C'est long.
Parce qu'en plus, tous les acteurs sont habillés par le directeur artistique de Saint-Laurent. Et pour moi, c'est le problème du film. C'est-à-dire qu'il confond l'espace du film, la fiction, avec un défilé de mode. Il confond aussi, je trouve, la beauté avec le luxe. C'est-à-dire que tout ce qui ravit le regard de Sorrentino, c'est du luxe, c'est les grandes familles bourgeoises, c'est les dorures. Je trouve qu'il y a une sorte de rencontre et de noce qui est en train de se passer entre certains cinéastes, auteurs, et l'industrie du luxe, et je déteste ça.
Xavier ?
Disons que c'est un film pour vieilles hétéros libidineux sous Viagra, et les gens un peu attentifs sauront que j'échappe un peu à ce profil-là. Pas pour vieux, mais un peu pour la suite. Voilà. ça ne m'intéresse pas du tout. Je déteste le cinéma de Sorrentino, mais vraiment, ça, c'est au-delà de ce que je peux endurer de regard sur les femmes. Il ne les regarde pas, d'ailleurs, il les fétichise au mauvais sens du terme, il les instrumentalise. Effectivement, c'est un défilé de mode. Alors, on est content, ça se passe à Naples l'été, donc on a la collection été-automne, maillot de bain. Ça nous change un petit peu des films précédents d'Yves Saint-Laurent. Je suis ravi que tu aies résumé le film avec autant de profondeur, parce que je n'y ai absolument rien vu, à part cette espèce de défilé, effectivement, de ralenti ostentatoire, de mouvement de caméra, de panoramie, de travelling avant, de travelling arrière, extrêmement sentencieux, avec un vieux à côté de moi qui me dit « T'as vu comme c'est beau ?» Je m'en fous, enfin écoute, essaye de tourner quelque chose. Visiblement, on lui a offert pour Noël un coffret DVD Blu-ray des films de Fellini. Il s'est dit « Maqué, c'est magnifique, il va faire la même chose !» Mais sauf que lui, quand il fait la même chose, on dirait une pub pour lessive allemande. Si, je vous jure, il y a une scène où il y a des espèces de bassines fluorescentes bleues qui tombent du ciel. Et je vous jure, il y a la même chose avec des femmes folles de joie qui sont ravies par Monsieur Propre qui leur permet enfin de laver leur cuisine sans frotter et sans essuyer. Et c'est à peu près du même niveau de stupidité.
Pietro, tu as gardé ton sérieux, tu es...
Xavier, je ne peux pas lui donner tort sur ce coup-là, parce que c'est malheureusement raté. Mais, contrairement à toi, Xavier, moi j'aime beaucoup, beaucoup Paolo Sorrentino. Et même dans l'échec à peu près total qu'est ce film-là, il y a des moments absolument sublimes. Par exemple, cette rencontre, donc en effet, avec un écrivain alcoolique et homosexuel, cette actrice, cette fausse actrice qui brusquement se met à insulter sa ville, comme ça, il y a une espèce de verve, le fait qu'il cite Billy Wilder comme un grand anthropologue, ça me ravit. Et puis, cette scène absolument terrifiante, où on voit les possédants de la ville qui assistent à un accouplement qui leur assurera leur puissance,
c'est
en quelque sorte.
C'est Pasolini, quoi, mais c'est horrible.
Donc, c'est pas uniquement des maillots de bain. Et des... Alors, c'est vrai qu'il y a des...
Beaucoup de maillots de bain, quoi.
Non, il y a des... c'est pas une cause de détester un film. Non, je crois qu'on va retrouver très vite le cinéaste de son premier film, qui était Les conséquences de l'amour, qui était déjà magnifique, et La glande de Bellette, qui est vraiment très, 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 très bien. Donc, il faut faire confiance à un vrai cinéaste, parce que lui est un vrai cinéaste.
Est-ce que tu fais confiance, Florence ?
Vraiment pas. Et moi, j'ai une sorte de rage contre le Festival de Cannes qui a érigé Paolo Sorrentino en auteur avec un grand A.
Alors c'est vrai que sur lui, long métrage, 7 ont été en sélection officielle.
Je trouve que c'est un cinéaste qui fait du mal à Fellini, parce qu'on parle toujours de Fellini à son propos et on est obligé. Mais non, mais ce qui est terrible, c'est qu'il vide totalement Fellini de sa substance. C'est-à-dire que là, c'est un film qui est très prétentieux, qui prétend parler philosophie, nous faire comprendre des choses sur le monde, nous faire comprendre des choses sur Naples. Alors que ce qu'on voit de Naples, c'est la surface absolue. N'importe qui aurait juste feuilleté un magazine sur Naples.
C'est même une imagerie assez publicitaire.
C'est une suite de clichés pompeux. C'est le problème, c'est tous ces dialogues aussi, très philosophico-littéraires et qui sont insupportables.
Après Parthénopée de Paolo Sorrentino, voici The Insider de Steven Soderbergh, un mois seulement après la sortie de son film de fantômes, avec le même scénariste d'ailleurs, David Koepp, qui a notamment travaillé sur le Mission Impossible de Brian De Palma. Et là, le scénario de The Insider joue avec les codes du film d'espionnage. Il y a une menace de crise nucléaire, mais à vrai dire, on s'en fout un peu, parce que ce qui intéresse Soderbergh, ça n'est pas la géopolitique, mais c'est la vérité et l'espionnage au sein d'un couple. À l'écran, ce couple réunit Michael Fassbender, plus froid tu meurs, et Kate Blanchett en brune. Ils sont anglais, ils sont espions, et lui la soupçonne de trahir la nation. Pour en avoir le cœur net, il a une semaine top chrono. Figurent aussi à l'affiche Pierce Brosnan et Naomi Harris, liés l'un et l'autre à la saga James Bond, et clin d'œil de Soderbergh à 007. Pierre ?
Je trouve ça formidable. Mais alors vraiment...
C'est le premier film du programme que...
Ah oui, oui, mais il se trouve que ceux qui ont le malheur de m'écouter depuis pas mal de temps savent que j'aime énormément un cinéaste qui s'appelle Joseph Mankiewicz, l'auteur de Ève, de l'affaire Cicéron, du Limier. Et il n'y a pas pour moi un film plus Mankiewiczien que celui-là. C'est-à-dire que c'est un film d'abord qui est fait sur les dialogues, qui sont absolument magnifiques, et avoir...
C'est plus un film de dialogue
que d'action. Oui, absolument, parce que l'action, tu l'as dit, mais quand on s'en fout du sujet, on s'en fout. Donc, absolument avoir en VO pour le venin de chaque accent, la façon dont c'est, le dialogue, la caméra qui est là exactement pour capter chaque intonation, chaque, voilà, c'est un bonheur de chaque instant. Moi, j'attends la sortie du DVD parce que quand le DVD, je vais me l'acheter ou le Blu-ray et je me passerai.
Tu feras le doublage toi-même.
Ah, non, mais la scène du repas, je vais me la repasser en boucle. Écoutez, apparemment, c'est superficiel, mais il me semble que c'est un film beaucoup plus politique que le film de Bong Joon-ho que vous avez tous aimé, parce que qu'est-ce que ça dit, ce film ? Ça dit que la confiance est très importante et qu'il ne faut faire confiance à personne. Eh bien, c'est exactement dans les temps qui courent, là, actuellement, une leçon à méditer.
Est-ce que tu fais confiance à Steven Soderbergh,
J'aurais
Xavier ?
J'aurais pu y aller avec Pierre. Comment te dire ? Déjà, moi, j'avais été extrêmement déçu par Présence, sortie il y a 3 semaines.
Oui, ça, c'est pas bon, ça.
Qui était quand même extrêmement paresseux, avec une idée de mise en scène qui était en gros une caméra en plan séquence.
Là, est différent, quand même.
Incarner le désincarné fantôme. Bon, ben là, c'est pareil. On a une idée de mise en scène. C'est-à-dire qu'on va suivre un personnage, Michael Fassbender, qui est implacable, qui est froid, qui est impassible. Donc la caméra et la mise en scène vont être pendant 1h20 implacable, impassible, désincarné. Ouais, moi, il y a un moment, ça m'embête un tout petit peu. Ça repose sur les dialogues, mais ils sont tellement ivres de leur excellence qu'ils ne m'intéressent plus. Moi, ils m'excluent au bout d'un quart d'heure, 20
minutes. Mais Mankiewicz aussi, alors, t'aimes pas Mankiewicz parce que le...
Mais arrête ces comparaisons.
Non,
qui entrave le débat. Mais ça fait 20 ans que tu me dis t'aimes pas Mankiewicz.
Mais j'aime
pas ce film-là, ça n'a rien à voir.
J'arrête pas, parce que c'est la même chose.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais c'est absolument tout en commun.
On essaye de nous faire croire au mélange entre James Bond et Scène de la vie conjugale de Bergman. Moi, je prends
Scène de la vie
sur le papier. Mais bien sûr que si. Mais alors t'aimes pas Bergman.
Ah bah non.
Oh bah non, t'aimes pas Bergman. Ah oh bah non, bah non. Ça, c'est pas bien, alors.
C'est n'importe quoi.
Mais
alors,
sauf que ça a été fait. C'est une série géniale qui est sur Prime, qui est une adaptation du film Mr. and Mrs. Smith. Et Donald Glover en a fait, justement, un James Bond bergmanien, éminemment plus drôle, éminemment plus fin et plus perfide que cette petite fiction très maniériste dont la fin est une espèce de fausse ambiguïté qui n'a pas beaucoup d'intérêt.
Florence, ton cœur balance entre Pierre et Xavier ?
Non, là, je rejoins Pierre complètement, parce que je trouve que c'est en effet très Mankiewiczien, vraiment.
Ah. Ouais, on lance le débat, là.
C'est très proche de l'affaire Cicéron.
Tourner les tables rondes à chaque fois qu'on parle d'un film.
C'est l'affaire Cicéron.
C'est l'affaire Cicéron, et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que on parle toujours de la comédie du remariage comme du grand genre américain où on suit un couple qui s'est éloigné, qui va à la fin du film se retrouver. Là, c'est autre chose et c'est plus inattendu, mais on a le grand plaisir, qui n'est quand même pas banal, de voir un couple qui est traité à égalité par le film et par le scénario. Et du coup, on est en permanence dans un jeu du chat et de la souris, mais où en fait on a deux chats. Donc finalement, on a un vrai plaisir de spectateur. Et il y a aussi le plaisir d'une durée très ramassée, un film qui se...
1h33.
Qui avance,
qui
voilà,
de plus en plus rare, par ailleurs.
Et avec un grand plaisir.
Muriel.
Oui, non, c'est vrai que ça fait penser à Mankiewicz. Non, mais
merci.
Parce que Mankiewicz, c'est qui va être le plus intelligent ? C'est un peu ça, la grande question de Mankiewicz. Voilà, c'est qui tient les rênes du récit. Et le film est très smart, mais au sens où il y a des montres intelligentes, où il y a des objets intelligents. C'est un film intelligent, qui est rutilant, qui est vraiment divertissant. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très... Il y a un bonheur de visionnage que moi, j'ai retrouvé et que je ne retrouve plus du tout à Hollywood. Le problème, c'est que pour moi, Soderbergh, c'est un peu à double tranchant. Parce que ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son côté très moderne. Il y a une sorte de modestie du geste qui fait qu'il veut faire des films, mais pas des grands films. Ça, j'aime beaucoup, mais en même temps, c'est pas des grands films. Donc, ça m'embête un peu. Et c'est là que, pour moi, le film aurait pu être un grand film sur le couple, quelque chose un peu à la Gone Girl de David Fincher. Et j'aime beaucoup le fait que ce thème de la transparence dans le couple, à tout prix, et du fait que maintenant, il faut mettre les moyens du film d'espionnage pour analyser le couple, tout ça est très beau. Mais comme ce n'est pas un grand film, c'est un peu je trouve que c'est une thèse un peu avortée, enfin que toute cette dimension conjugale ne va pas jusqu'au bout et que Soderbergh, s'il prenait un peu plus le temps d'écrire son scénario, d'ambitionner peut-être le grand film, on serait un peu moins frustrés, parce que moi c'est des films, Soderbergh, auxquels je ne repense pas trop le lendemain.
C'est vrai, mais
je passe un peu à autre chose.
Mais celui-là est plutôt bien écrit quand même.
Bah pas assez quoi, il faut un peu plus de boulot quoi.
Une critique du public pour The Insider de Steven Soderbergh. Non, vraisemblablement ça ne provoque... Ah pardon. Ah, c'est Guy ! Bonjour, Guy.
Bonjour. Ah, il y a des gens qui disent « oh là là ».
Non, ah, allez-y, allez-y.
Bon, contrairement au film précédent qui est du Fellini mal digéré et celui d'avant, je me posais la question si elle s'appelait pas Coppola. Je pense qu'elle n'aura pas eu l'aisance de monter un film. Celui-là, il est brillantissime. C'est une chasse à la taupe brillantissime. C'est léché, très bien filmé, brillant, brillant. Ça, c'est du grand cinéma quand même.
Eh bien, merci Guy. Je clôt cette tribune sur ce film et maintenant un western à moto et en scope grâce à Black Dog du cinéaste chinois Guan Hu. Nous sommes dans le décor fantastique mais bien réel du désert de Gobi et Lang rentre chez lui dans la petite ville de Xixia après un séjour en prison dont la cause ne nous est pas révélée tout de suite. Lang est plutôt mutique. Il fut cascadeur motard dans le cirque du coin et son père, alcoolique, s'occupe de ce qui reste du zoo de Xixia. Tandis que les JO se préparent à Pékin, Xixia se vide de ses habitants et la ville est envahie par les chiens. Lang se retrouve engagé de force dans une patrouille anti-chien et il va tisser un lien avec le plus féroce d'entre eux, un lévrier noir. Pour ma part, je ne connaissais pas du tout ce cinéaste, Guan Hu, qui d'après ce que j'ai lu était un réalisateur officiel de blockbuster en Chine. Alors rien à voir avec ce registre ici. Black Dog est une satire politique, parfois burlesque, qui imprime la rétine dès le premier plan. Une meute de chiens dévale une colline et provoque l'accident d'un bus comme d'une diligence. Florence.
Oui, tu ne connaissais pas Guan Hu parce que c'est son premier film à sortir en France, je crois. Et heureusement que celui-ci nous arrive parce que, et là, on peut dire merci à Cannes cette fois-ci parce que c'est grâce à cette sélection, à un certain regard.
Oui, il a eu
d'ailleurs
prix,
eu le prix. D'ailleurs. Et c'est un film absolument exceptionnel qui nous vient donc d'un réalisateur de blockbuster qui a pris pour son personnage principal un acteur visiblement très connu aussi en Chine pour des comédies romantiques, ce qui est totalement improbable quand on a vu le film. Et tout ça, tous ces artistes-là, au service d'un film qui ne ressemble à rien qu'on ait vu, c'est-à-dire qu'il évoque le western, il évoque la dystopie, il évoque le documentaire, il évoque le grand cinéaste chinois Jia Zhangke qui joue un rôle
et Chaplin
de mafieux
aussi.
Totalement inattendu. Chaplin, ce lien entre l'homme et l'animal qui est quand même ce qui sous-tend le film d'une façon très bouleversante. Et moi, j'ai été frappée par le fait que c'était un lévrier tout maigre, tout sec, qui faisait l'objet de cette passion pour ce personnage solitaire qui sort de prison, qui est totalement, on comprend, en déshérence affective.
Et d'ailleurs, ils se rencontrent tous les deux en pissant contre un mur, chacun.
Exactement. Et le chien identifie par la suite son maître grâce à cette odeur qu'il aura imprimée désormais. Et donc, ce lien-là, un peu sec, un peu pas toujours plaisant comme ça, fait le cœur finalement très sentimental de ce film. Et il y a quelque chose de très beau dans l'observation d'un pays qui broie ses habitants, parce que le regard sur la Chine est terrible. C'est le moment où on prépare la région pour les Jeux Olympiques de Beijing, et donc ça se fait avec une brutalité terrible. Il y a aussi le poids du regard des autorités en permanence. Il y a une voix comme
voix,
ça
ouais.
Dans la rue qui peut retentir, qui peut vous agripper. Pour vous dire, ne faites pas ci ou ça, marchez la tête haute à un moment aussi, il est dit au personnage. Donc, toutes ces informations sociétales et historiques nous sont données. Et en même temps, il y a un cœur sentimental du film, vraiment bouleversant. Et donc, cette rencontre de choses improbables donne un grand film.
Pierre.
Oui, Florence en a très bien parlé. C'est vraiment vrai. Tout ce que tu as dit est vrai.
Je t'en pointais un mais.
Non, il y a un petit mais. Le climat est absolument superbe. C'est-à-dire ce vide, ces maisons de plus en plus délabrés, ces êtres qui n'existent quasiment plus. Alors, la seule petite réserve pour aller vite, c'est peut-être au niveau du scénario, c'est-à-dire que tout le climat est absolument splendide. Il y a une sorte, dans le scénario, me semble-t-il, des approximations qui peuvent coller à l'ambiance, mais qui ne collent pas toujours. Mais ça reste un film à voir absolument. Et juste un dernier truc, si vous êtes intéressé par les chiens dans les films, je signale quand même qu'il y a une dizaine d'années, un film hongrois qui s'appelait White God, qui était obtenu, comme celui-là d'ailleurs, le Grand Prix à Cannes, à un certain regard, et qui était l'histoire de Spartacus chez les chiens. Rattrapez-le en DVD, non ?
Il fait la séquence coup de cœur avant la séquence.
C'est mon coup de cœur, parce que c'est presque plus beau que celui-là.
Muriel.
Ouais, non, le film est très impressionnant. Moi, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Et c'est vrai que je savais pas qu'il avait réalisé des blockbusters. Et de fait, c'est Mad Max, en fait. C'est entre Mad Max et, alors, j'ai plus pensé à Coris Maki, mais en fait, faut revenir à l'origine, qui est de fait Chaplin. Et j'ai même pas suivi le scénario parce que, en fait, il y avait presque la découverte d'un monde. J'arpentais, en fait, cet univers. En fait, c'est presque une pratique de jeux vidéo. Je pensais aussi de la bande dessinée. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'une sorte de futur du cinéma que charrie le film et qui m'a m'a beaucoup impressionnée, alors moi aussi j'ai une toute petite réserve, c'est que je trouve que c'est presque trop de maîtrise. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film est très conscient de sa virtuosité et que moi ça me met à une place d'admiratrice, mais que d'admiratrice, et peut-être que ça manque un moment de... Il faut peut-être un peu lâcher, laisser de la place pour l'accident. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'effets numériques. Je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est pas
alors,
tout à défend. Fait...
Enfin, il s'en défend, le cinéaste.
Mais... Ça sent un peu, à mon avis, il a ajouté des bâtiments, des trucs, parce que je trouve que c'est vraiment du même niveau que Mad Max en termes de paysage. Donc,
ça m'a échappé, ça, pour ma part. Xavier ?
Moi, j'ai pas de réserve. Je suis complètement du côté de Florence Colombani. Je m'aperçois qu'effectivement, vous préférez les films comme Soderbergh, où on vous explique tout et les enseignes redondantes avec le dialogue et le jeu des comédiens. Donc, tout va dans le même sens. Là, subitement, on vous demande peut-être d'orienter votre regard ailleurs que sur le récit et de vous nourrir d'autres choses. Je trouve qu'un film qui fait confiance à l'intelligence et à la sensibilité du spectateur, plutôt que le simple fait qu'il soit consommateur, oui, me plaira plus, certainement.
Black Dog, donc, de Gwan Hu, et on termine ce masque avec Le secret de Khéops, réalisé par la comédienne Barbara Schulz, dont c'est le premier long-métrage comme cinéaste, Fabrice Lucchini et Christian Robinson, un peu Indiana Jones, comme dit l'un des personnages du film, puisque Robinson est un archéologue lancé dans une chasse au trésor entre Le Caire, le Louvre, les sous-sols de la Bastille et Ruelle Malmaison. C'est au Caire, pendant une fouille clandestine, que Christian découvre une inscription mystérieuse. Selon lui, elle prouve que le trésor du pharaon Khéops a été volé, puis caché à Paris pendant la campagne de Napoléon en Égypte. À partir de là, Christian se lance dans une course folle en embarquant son petit-fils et sa fille, avec qui les relations sont tendues. Qu'est-ce que tu as pensé de cette comédie policière doublée d'une histoire de réconciliation familiale avec Fabrice Lucchini et Julia Piaton dans le rôle de sa fille? Pourquoi tu rigoles?
Parce que non, c'était... Enfin, parce que j'ai pas aimé, tout simplement. Non, mais en plus, je me suis dit, pour un premier film, de faire de Paris une sorte de terrain de jeu comme ça, de chasse au trésor, façon L'Homme de Rio, je trouvais ça très original. Je me suis dit, c'est comme désir de premier film, c'est très original. Alors, le problème, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que le film réduit le récit d'aventure à une pure signalétique, c'est-à-dire le méchant a un accent étranger, il est très méchant, il fronce les sourcils, et il met ses mains comme ça, comme Nosferatu, sur les épaules de l'antiquaire. Le petit-fils va trouver une clé dans la scène d'après, la fille va trouver la serrure qui correspond à la clé. J'ai l'impression que le spectateur doit faire tout le travail de fiction que ne fait pas le scénario, et en plus de ça, il y a Fabrice Lucchini qui cachetonne, parce que le problème de Lucchini, c'est qu'il est pareil à la télévision, au cinéma, chez lui, sur une pièce de théâtre, dans une pièce de théâtre. Et alors, ceux qui aiment Lucchini foncer, ceux qui ne l'aiment pas, comme moi, c'est un vrai problème, parce que il aspire toute l'énergie du film. Voilà, pour moi, il n'y a pas de film, il y a juste Lucchini, et voilà, c'est tout.
Xavier ?
Je suis entièrement, malheureusement, d'accord avec Muriel, parce que j'aime bien Barbara Schulz, que je trouve une comédienne...
La cinéaste, oui, qui a réalisé.
Grande, mais en tant que cinéaste, il y a encore, malheureusement, beaucoup de travail à faire. Effectivement, il y a une inspiration de l'énergie, ça se voit sur les seconds rôles, avec des comédiennes et des comédiens qu'on aime bien, et qui sont, mais translucides. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils leur volent tout, qu'ils n'ont rien à défendre, que la scène est mise en scène de manière vraiment à ce que Lucchini soit au centre, et que les autres personnages soient périphériques. Et quand, pardon, mais publicité mensongère, Rebecca Manzoni, vous parlez de course folle. T'avais pris un truc avant
Va Parce savoir.
Que c'est pas très course, et c'est pas folle du tout, quoi, quand même. C'est plan-plan, alors qu'elle fait un effort. Il y a des intrigues historiques, il y a un escape game. Vraiment, elle essaie d'être à la mode dans, effectivement, toutes les possibilités.
C'est ça, la course folle.
De jeux de société. Ouais, mais malheureusement, non.
Pierre ?
C'est un film suranné, mais comme je suis suranné, donc moi ça me va très bien.
Non, c'est Mankiewicz. Sois honnête.
Si tu veux.
Sois honnête.
Mais j'accepte aussi. Ça m'est complètement.
Ça marche bien. Avec tout, Mankiewicz.
Voilà, non, mais comme Minimir. Je trouve que c'est. C'est évidemment dans la ligne de L'Homme de Rio. Je vous trouve un peu sévère pour une fois avec Lucchini, parce qu'on a vu Lucchini avaler et vampiriser des films. Là. Non, je le trouve pas. Je trouve qu'il joue son rôle. Il est bien, mais il laisse un peu la place à ses partenaires et il laisse beaucoup de la place à la metteuse. Et Barbara Schulz, je trouve qu'elle fait un travail plaisant. Alors, c'est tout petit. On l'oublie très très vite après l'avoir vu.
Je l'oubliais pendant que je regardais.
Mais pendant qu'on le voit, moi j'ai passé un moment plutôt agréable par rapport à certaines choses très ennuyeuses qu'on se tape régulièrement.
Est-ce que tu as passé un moment agréable, toi, Florence ?
Non, mais malheureusement, moi, la référence à De Broca, à L'Homme de Rio, j'adore. Je demande que ça, de voir un film qui ressuscite cet esprit-là, cette légèreté, ce charme. Mais ça n'advient pas. Et je trouve qu'il y a un moment assez emblématique qui est ce moment où ils sont dans une sorte de musée, enfin de collection particulière vivant de nom, où on va trouver un indice, comme dans chaque scène, hein, on trouve toujours un indice. Quasiment avec un petit...
C'est un film escape game.
Voilà, et puis quasiment entouré de rouge pour qu'on comprenne bien où il est. Donc on entend une vitrine se casser et hors champ. Et ensuite, le petit-fils de Lucchini arrive en disant « Regarde ce que j'ai trouvé dans les débris de la vitrine qui s'est cassée. » Mais on ne l'a même pas vu se casser. Donc il y a quelque chose qui ne se produit pas de cette enquête, de cette folie, de cette course.
Et on lui a dit « Tu ne touches à rien !» il touche.
Comme par exemple, il vole le bon objet.
Mais ça n'advient pas à l'écran, c'est quand même dommage.
Est-ce que quelqu'un veut participer à cette tribune sur le secret de Khéops réalisé par Barbara Schultz ? Non plus. Eh bien, avec 6 films au programme, pas de coup de cœur exceptionnellement aujourd'hui, mais des merci pour Xavier Le Herpeur, Muriel Joudet, Pierre Murat, Florence Colombani et le public du Théâtre de l'Alliance Française. Avant de terminer, je voulais vous faire part de quelques changements dans notre carnet de bal. Le prochain enregistrement du Masque Cinéma aura lieu le jeudi 20 mars entre 19 et 20 heures, toujours au Théâtre de l'Alliance Française. Et je vous annonce que le vendredi 4 avril, le Masque sera présent pour la première fois au Festival Quai du Polar de Lyon, une émission spéciale polar, donc enregistrée à Lyon le 4 avril à 17 heures. Vous pouvez réserver vos places sur le site Quai du Polar dans l'onglet billetterie. Giraud réalise le masque et la plume et aujourd'hui à la technique il y avait Cédric Chatelus, Titouan Labarre, Nicolas Depagraf et Leslie Horowitz. Ilinka Negulesco coprogramme et prépare l'émission avec Nina Malray et Célestine Babinet. Ma bande et moi vous retrouvons dimanche, même heure, même motif, sur France Inter évidemment.